Bonsoir, trois thèmes dans cette émission suivie de la presse de ce soir, à savoir l'entrée en fonction du gouvernement Mobutu 2, réouverture depuis mardi dernier de l'Assemblée provinciale du Katanga sur décision du ministre de l'Intérieur du gouvernement central, et enfin Radio Kapi a célébré hier, jeudi 25 février 2010, son 8e anniversaire. Trois confrères sont avec moi dans cette émission pour en parler. Il s'agit d'Albert Omba, il est journaliste à la radio Tropicana FM, c'est une radio qui émet depuis Kinshasa. Ambroise Mamba, il est journaliste à la télévision Congo Web, c'est une télévision qui émet aussi depuis Kinshasa. Et Jean-Baptiste Badera, il est secrétaire de rédaction à la radio Mandelo, c'est une radio communautaire émettant depuis Bukavu au Sud-Kivu, et il est aussi correspondant de Digital Congo dans cette province. L'entrée en fonction du gouvernement Mobutu 2, la réouverture de l'Assemblée provinciale du Katanga ainsi que le 8e anniversaire de la radio Kapi, tels sont les thèmes retenus pour le débat de ce soir. Comment la presse chinoise a traité ces différents sujets? Écoutons cette revue de presse que nous présente Samuel Katiak.
Bonsoir. Les journaux parus cette semaine à Kinshasa ont fixé leur projecteur sur le remaniement du gouvernement Mobutu 2. Le quotidien L'Avenir, qui parle du suspense qui est enfin tombé, affirme que le président Joseph Kabila Kabange a assigné trois missions essentielles à Mobutu. Il s'agit entre autres de l'amélioration du social, de l'application de la tolérance zéro et la tête du point d'achèvement de l'initiative PPTE, ainsi que l'organisation des élections générales. Le potentiel, pour sa part, affirme que le choix judicieux des personnes a beaucoup joué dans la décision du président de la République pour procéder au remaniement du gouvernement et de son cabinet. Et pendant ce temps, poursuit ce journal, le CNDP dénonce le non-respect par le gouvernement des accords de paix de Goma, ceci suite à l'absence de ses représentants au gouvernement Mobutu 2. Enfin, la prospérité estime que des grosses têtes se retrouvent dans le gouvernement Mobutu 2. Ce journal s'étale assez longuement sur l'analyse globale du nombre des membres de l'actuel gouvernement Mobutu, tout en se penchant, comme ses précédents confrères, sur l'émission assignée à ce gouvernement par le chef de l'État, qui voit d'une manière sa réussite aboutir à l'organisation des élections générales en passant par l'amélioration du social.
Merci Samuel Katiak pour cette revue de presse. Un petit commentaire par rapport à la revue de presse que nous venons d'écouter. Ambroise Mamba, je rappelle que vous êtes journaliste à la télévision Congo Web, c'est une télévision qui émet depuis Kinshasa. Et comment appréciez-vous le travail de la presse chinoise de cette semaine?
Bon, c'est une bonne revue de presse, parfaite, bien traitée, bien commentée aussi.
Albert Omba, vous êtes journaliste à la radio Tropicana FM, c'est une radio qui émet depuis Kinshasa aussi. Votre point de vue par rapport à ce travail et le travail de la presse chinoise de cette semaine?
Je crois que tout le monde s'est concentré sur le remaniement et on a évoqué presque tous les aspects, les conséquences et tout ce qui a eu comme retombée de ce remaniement. Je crois que c'était une bonne précision au niveau de la presse aussi.
Jean-Baptiste Badera, vous êtes secrétaire de rédaction à la radio Mandelo, c'est une radio communautaire émettant depuis Bukavu au Sud-Kivu. Vous êtes aussi correspondant des Digital Congo dans cette province. Et quelle est l'actualité qui a dominé au Sud-Kivu pendant cette semaine?
Oui, merci beaucoup. L'actualité qui a dominé au Sud-Kivu cette semaine, c'est bien entendu l'interpellation du ministre provincial de l'Intérieur au sujet de l'insécurité qui continue dans la province du Sud-Kivu en général. Et dans la ville de Bukavu en particulier, il a été interpellé par l'Assemblée provinciale du Sud-Kivu et au cours de la première tenue le jeudi dernier à l'Assemblée provinciale du Sud-Kivu, les provinciaux du Sud-Kivu ont recommandé pas mal de choses au gouvernement provincial, notamment la fermeture de certaines maisons de tolérance, mais également d'arrêter de produire des litières en sachet de poisson fortement alcoolisées. Il y a eu aussi la police bien entendu du ministre britannique des Affaires étrangères, le ministre Trump, qui a donc développé ici à Bukavu, c'était le Pacifique. Ce sont là ça, les deux points qui ont dominé la santé semaine. C'est également il y a l'insécurité qui continue dans certains territoires, notamment à Sabunda, où plusieurs familles ont fui leur maison par crainte des éléments externes qui, effectivement, les menacent, mais c'est également le cas dans le territoire de Menga où des gens sont retrouvés et tués par des personnes que nous sommes qualifiés d'SLS. Il y a aussi ces 36 vendeurs qui dérangent dans la tête du village. Ils vont dire donc, jeunes qui ont pu faire attention à ça, ça ressemble un peu à ce qui a fait avec les phénomènes au Kuluta. Et bien, ces bandits qui sont en train d'expliquer la ville de Bukavu pour aller en sécurité
de
la tête du village.
Merci, nous passons à notre premier thème de ce soir. L'entrée en fonction du gouvernement Mozito, remanié depuis vendredi dernier. Adolphe Mozito a été reconduit premier ministre de ce nouveau gouvernement, dont l'effectif est réduit à la baisse. Il passe de 54 à 43 membres. Cette nouvelle équipe gouvernementale est formée en fonction des regroupements de certains portefeuilles ministériels et devra, selon quelques assignations, améliorer les conditions de vie sociale des Congolais, appliquer la tolérance zéro et organiser des élections générales. D'après la structure de ce gouvernement, 23 membres sortants sont reconduits et 20 autres ont fait leur entrée. Des précisions avec Askin Zidjatayoro.
Ce gouvernement qualifié de Mozito 2 comprend 3 vice-premiers ministres avec portefeuille, 34 ministres et 7 vice-ministres. 4 ministères sont fusionnés en 2. 8 postes de vice-ministres sont supprimés. Nzanga Mobutu quitte son ancien poste supprimé pour occuper les postes de vice-premier ministre chargé de l'emploi, travail et prévoyance sociale. Adolphe Luma nous quitte le cabinet de chef de l'État pour exercer les fonctions du vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité. Le nouveau poste de vice-premier ministre de poste, téléphone et télécommunications est confié à M. Simon Bouloupi Galat, un de nouveau à faire son entrée dans ce gouvernement. Dans les rangs des ministres, des grosses pointures du gouvernement sortant sont reconduites. Il s'agit entre autres des ministres Alexis Tambo des Affaires étrangères, Olivier Kamitatu du Plan, Lambert Mende de la communication et médias, Charles Moindo Simba de la Défense et enfin Janine Mabunda du portefeuille. Parmi les sortants, Émile Bongeli, vice-premier ministre en charge des reconstructions, un poste supprimé. Atanas Matinda est remplacé à son poste de ministre des Finances par M. Matata Mpoyo. Ce gouvernement a pour mission principale dans le reste du mandat de Joseph Kabila, se battre pour les succès de la population, continuer l'œuvre des 5 chantiers et organiser les prochaines élections générales.
Albert Omba, comment avez-vous accueilli la publication de ces gouvernements réaménagés?
Bon, qu'est-ce que nous pouvons dire? C'était quand même l'attente de tout le monde depuis le mercredi. Tout le monde attendait la publication de ce gouvernement. Et c'est quand même un gouvernement qu'on a essayé de restructurer pour équilibrer un peu les fonctions et les missions assignées avant d'atteindre la fin du mandat du président Joseph Kabila. Et donc, il y a beaucoup à faire maintenant. Et pour atteindre ce point, il faut les vertébrer, s'il le faut, pour que tout ce qui n'a pas été fait, c'est-à-dire le social et un peu l'économie, les finances, soit fait aussi pour... Alors, je vaut mieux tard que jamais, je voudrais profiter de l'opportunité que vous m'offrez pour souhaiter un bon anniversaire à tous les personnes de Radio Capi et à tous les auditeurs de Radio Capi qui ont fêté hier leur 8e anniversaire.
Merci beaucoup.
Okay. Alors, nous disons que la population a accueilli ce nouveau gouvernement d'une manière assez normale. Donc, il n'y a pas eu assez de commentaires. On dit, bon, c'est la continuité. Voyons tous ces gens-là à l'aise.
Ambroise Mamba, il y a beaucoup à faire selon Albert Omba. Votre réaction?
Bon, moi, je trouve d'abord qu'il y a beaucoup de tâtonnements, beaucoup d'imprécisions au niveau du pouvoir en place, dans la manière de faire du pouvoir en place, parce que le remaniement a été annoncé assez longtemps, depuis le mois de juin 2009. On a remanié 8 mois après l'annonce. Lorsqu'on a fait l'annonce, on a remarqué qu'il y avait un échec au niveau de l'action gouvernementale. Puisque si on veut remanier, c'est-à-dire qu'on veut améliorer l'action du gouvernement. Alors, on a annoncé, on a attendu. Finalement, on a remanié. Albert Omba a parlé d'un adage qui dit « mieux vaut tard que jamais ». Alors, l'imprécision, pourquoi? Parce que le chef de l'État, lorsqu'il a nommé Mozito comme premier ministre, il avait assigné certaines missions, notamment la pacification de l'Est Est-ce que cette mission a été évaluée et trouvée qu'effectivement l'Est a été effectivement pacifié? Notre confrère Jean-Baptiste Boukavou, qui intervient au téléphone, il nous a parlé de l'insécurité jusqu'aujourd'hui croissante au niveau du Sud Kivu, par exemple. Donc, à ces niveaux, je voudrais qu'on puisse évaluer et en déduire. Le chef de l'État, lorsqu'il a été devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès, il a assigné des missions supplémentaires au gouvernement. Et puis il a donné une échéance de 3 mois au gouvernement Mozito. Et après 3 mois, il en tirait des conséquences. Mais l'échéance n'est pas arrivée à son terme lorsqu'on a remanié de manière un peu catastrophique, selon moi. Parce que jusqu'aujourd'hui, on n'a pas pu bien comprendre pourquoi on a remanié. Est-ce qu'il y a eu une fausse pression pour qu'on remanie? Mais ce que je déplore, moi, ici, c'est quoi? C'est le fait pour Adolphe Mozito et le président de la République d'avoir gardé presque tous les chefs de parti. Parce que si on a voulu remanier, c'est-à-dire qu'on voulait qu'on puisse donner de l'efficacité à l'action du gouvernement. Mais lorsqu'on garde presque tous les chefs de parti, c'est-à-dire qu'on veut, on veut avoir le même résultat. Donc on garde les mêmes têtes pour avoir les mêmes résultats. Je considère tout simplement que le chef de l'État s'est retrouvé face à deux problèmes. Le premier problème, par rapport à son intérêt à lui personnel, étant donné que nous sommes vers la fin de la législature en cours, son intérêt personnel, c'est-à-dire en voulant faire partir tous les chefs des partis, il s'étirerait des frustrations qui peut-être joueraient en sa défaveur. Le deuxième problème, c'est l'intérêt général de la nation qu'on a dû sacrifier. On a sacrifié l'intérêt national du peuple congolais en faveur des intérêts des partis, des alliances, et ainsi de suite, qu'on a préservées. Et là, la population a pâti.
Et en quoi la présence de ces chefs de parti peut poser problème?
Parce que si on a voulu remanier, c'est-à-dire qu'on voulait changer l'action du gouvernement, on voulait donner à l'action du gouvernement une certaine efficacité. Voilà pourquoi on voulait remanier. Le remaniement veut dire quoi? Garder les mêmes personnes. Je ne sais pas si c'est là la signification du remaniement. Garder les mêmes personnes, si on a voulu garder les mêmes personnes, est-ce qu'on a donné une autre impulsion? On leur a confié une autre mission, notamment en rapport avec l'organisation de sélection. Je ne sais pas si c'est en rapport avec ça qu'on les a gardés là-bas pour assurer la victoire en 2011, pas pour améliorer les sociales des Congolais.
Non, mais parmi les missions qui ont été assignées à ces nouveaux gouvernements, on a parlé de l'amélioration sociale des Congolais.
On le dit, est-ce qu'on le fait?
Ils ne sont qu'au début.
Est-ce que pour améliorer les sociales des Congolais, il fallait qu'on les fasse seulement en 2010? Ils ont été élus en 2006. Ont-ils amélioré les sociales des Congolais depuis 2006 jusqu'à 2010? Pourquoi les faire seulement maintenant?
Merci Jean-Baptiste, c'est depuis plusieurs mois, comme venait de l'évoquer Ambroise Mamba, c'est depuis plusieurs mois que ce gouvernement a été attendu. Et comment la population de Bukavu a agi à l'annonce de cette nouvelle équipe?
En tout cas, Bukavu, il n'y a pas eu une réaction particulière, d'autant plus que, comme je venais de le dire, on n'a pas parlé de le dire, c'est depuis plusieurs mois qu'on a fait ce remaniement. En tout cas, dans plusieurs fois de la suite, hein, déjà, on voit l'expression que c'est presque de la même configuration. D'autant plus que les grands changements que plusieurs habitants de Bukavu ont attendus n'est pas arrivé. Parce que, on sait que parmi les membres qui détiennent le Covid, il y a quand même des difficultés qui devraient être constatées dans ce nouveau gouvernement, avec des structures. Mais, on a constaté qu'avec ce remaniement, c'est presque. Et puis ils sont rentrés, les noms qui sont toujours connus. Et là, les gens se rappellent du discours du chef de l'État. Et comme l'a dit Mamba, le 8 décembre dernier, quand il s'adressait aux deux chambres du Parlement, il avait dénoncé le mobilisme du gouvernement central. Et là, donc on pensait que peut-être ce départ devait faire recours à des contacts plus avec un grand œuvre pour essayer de donner le tenir au gouvernement central. Et il faut noter que dans les médias, on a quand même noté, pas mal de félicitations en faveur notamment du ministre national de l'agriculture, M. Norbert Fakadi du Katistima, qui, en tout cas, selon plusieurs observateurs localement ici, estime qu'il a quand même fait assez par rapport aux années passées, avec son fait l'agriculture, avec surtout la suite des cours de produits miniers. Et en tout cas, donc, je pense que là, donc, s'il faut qu'on puisse se lancer, on peut finir. Mais dans l'ensemble, en tout cas, il faut noter que la population de Bukavu a agi dans la majorité, dans les différents gouvernements, et n'attend que de voir le social s'améliorer comme l'a bien souhaité le chef de l'État. Et on croit qu'en fait, l'exploitation ne va pas s'appeler après l'amélioration des conditions sociales des Congolais en général, parce que, comme vous le savez, en fait, partie de la République, il y a certes les gens qui sont en train de se faire, effectivement, ce qui est contre le commerce, bien sûr, tout le reste est arrivé. Et que la société comporte à faire parce que les choses évoluent dans un sens qui rassure la population de Foucault-Cadron.
Merci,
Jean-Baptiste. Il faut noter que ce presse dans la différence, les gens attendent plutôt que le gouvernement aux actes plutôt que de commencer à réagir d'une façon ou d'une autre.
Merci, nous allons parcourir la une de certains journaux. Je vois la référence plus, le quotidien la référence plus de mercredi 24 février dans cette édition sur. La manchette, il dit déclencheur du point d'achèvement de l'initiative PPTE, les partenaires félicitent le gouvernement Mouzito. Je vois l'avenir du mercredi 24 février toujours. Le point d'achèvement le satisfait, les partenaires saluent les efforts de la RDC. Je vois l'Observateur dans son édition du même mercredi 24 février. Remise et reprise entre Matata Ampogno et Matenda Kielou, le point d'achèvement de l'initiative PPTE en fait toujours les esprits. Qu'est-ce qu'on peut dire, Albert Omba, par rapport à ces processus d'initiative PPTE?
Oui, c'est ce qu'on peut dire, malgré tout ce qu'il y a comme satisfaction au niveau de certains observateurs. Et il y a quand même une petite avancée au niveau de relations entre le gouvernement et les partenaires, surtout la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. Mais vous constaterez qu'il y a encore beaucoup à faire, c'est-à-dire il y a beaucoup de conditionnalités qui ne sont pas encore réglées. Et de point de vue échelonnement, nous avons vu que c'était prévu, le point d'achèvement était prévu au mois de mars. Maintenant, nous repoussons au mois de juin. Et on peut aller encore, ce qui veut dire qu'il y a certaines conditions qui ne sont pas encore certaines préalables, parce qu'il y en avait 6, il y en avait encore, et il y a encore d'autres préalables qui ne sont pas encore remplis par le gouvernement. C'est ça la crainte que nous avons, malgré que dernièrement le club de Paris a essayé d'annuler au moins une partie de la dette congolaise à, je crois, à peu près 1,3 milliard,
et l'autre une bonne nouvelle.
Une bonne nouvelle, oui. Et notre parti est 1,4 milliard échelonné à 23 ans. C'est quand même une bonne entrée dans ce programme. Si Mouzito est resté, c'est uniquement et surtout pour Kabila a voulu que Mouzito puisse achever ce programme. Parce que s'il devait changer Mouzito où et renouer tous les gouvernements, ça pouvait poser problème pour atteindre ce point d'achèvement. Alors, je reviens encore pour le même problème que la mission qu'on a donnée au gouvernement Mouzito, qui consiste aussi à améliorer le social. Et comment il va améliorer le social? C'est ça le grand problème, parce qu'il nous reste moins de temps par rapport à la période qu'on devait commencer en 2006. Je commence par les salaires. Les salaires qui ne sont pas indexés, parce qu'aujourd'hui, s'il y a beaucoup de remous au niveau de l'enseignement supérieur, au niveau des professeurs qui sont en grève, et il y a aussi les médecins qui ont eu dernièrement gain de cause, mais qui n'ont pas encore le fait. Il y a les magistrats aussi qui ont
eu une bonne cause alors qu'ils n'ont pas encore obtenu ce que
réellement ils n'ont pas.
Gouvernement.
Voilà, ils peuvent reprendre d'ici demain. Et il y a encore les magistrats qui ont contesté le salaire que le premier ministre a dit pouvoir les allouer. Le premier ministre parlait de 1 600 $, alors que les magistrats disaient que non, ils n'ont jamais vu ça. Pour eux, c'est 400 $ qu'ils touchent. Donc, vous voyez qu'il y a un peu de discorde entre les chiffres que le gouvernement avance avec ce que les gens gagnent réellement. Alors, on ne va pas, au niveau du social, on ne va pas seulement améliorer le salaire des magistrats, des professeurs, non, on va améliorer le salaire de tout le monde. Est-ce que le gouvernement a cette politique-là d'améliorer le salaire pendant qu'il y a des exigences que la Banque mondiale et le Fonds monétaire demande d'observer pour atteindre le point d'achèvement? C'est ça la grande question maintenant, la grande équation à résoudre pour le gouvernement.
Oui, Ambroise Mamba, comme le dit Albert Omba, il pose un certain nombre de questions par rapport aux moyens que détient le gouvernement pour améliorer le social des Congolais. Et aussi, il y a ces processus et l'initiative PPTE que l'on envisage d'atteindre d'ici mi-juin. Et votre point de vue par rapport à ça?
Je pense que les journaux ont parlé effectivement de ce qui se passe entre la RDC et les créanciers en rapport avec l'annulation de la dette. Cette dette qualifiée d'odieux qui pèse trop lourd, et alors trop lourd, sur le pays qui nous a été légué par le régime Mobutu. Alors, en rapport avec l'annulation de la dette, je pense qu'il n'y a pas de problème. Mais là où je trouve un peu des contradictions entre le fait que le chef de l'État et décréter l'année 2010 comme l'année du social et l'atteinte du point d'achèvement. C'est-à-dire que j'ai trouvé un peu une contradiction. C'est-à-dire que il n'y aura pas assez des possibilités pour faire de 2010 l'année du social.
Pourquoi ? Pour quelle raison ?
Pourquoi ? Parce que le chef de l'État, en décrétant l'année 2010 année du social, il n'a pas fait allusion à l'initiative ou bien à l'atteinte du point d'achèvement. Les premiers ministres, chefs du gouvernement, qui doivent mettre en pratique cette politique du chef de l'État, pour qu'effectivement, au niveau du social, il puisse avoir de l'amélioration, ils misent sur l'atteinte du point d'achèvement. L'hypothétique atteinte du point d'achèvement est prévue pour juin. C'est-à-dire que de janvier à juin 2010, le social du Congolais ne sera pas amélioré. Vous allez certainement vous rappeler du renvoi du budget 2010 au Parlement. Le renvoi qu'il ne voulait pas voir l'enveloppe salariale des fonctionnaires de l'État être gonflée en rapport avec les engagements qu'on a pris avec l'institution de Bretton Woods. Déjà, lorsqu'on ne fait pas améliorer les conditions salariales, ou bien lorsqu'on ne fait pas gonfler le salaire des fonctionnaires de l'État, le social, on ne peut pas dire qu'il sera amélioré. Le chef du gouvernement a pensé par atteindre le point d'achèvement pour prendre l'argent et affecter ça à l'amélioration des conditions salaires des fonctionnaires de l'État. Ce qui ne sera pas fait d'ici là. Deuxième raison, c'est quoi ? Le Premier ministre, lorsqu'il a fait sa sortie médiatique, avec beaucoup de chiffres, beaucoup de graphiques, ainsi de suite, il a projeté l'amélioration des conditions sociales des populations pour 2020. Donc, c'est une contradiction entre les souhaits du chef de l'État de faire 2010 l'année sociale et ce que le chef du gouvernement fait. Donc, je pense que ça sera peut-être des discours démagogiques, peut-être au chef de l'État de pouvoir donner un autre contenu à ce qu'il a décrété comme année sociale.
Jean-Baptiste Badera, partagez-vous le pessimisme exprimé par Albert Romba et Ambroise Demamba?
Oui, en point de vue, quelque peu pessimiste, de bien conseil, en tout cas, je le partage parfaitement. Et parce que il faut dire qu'il y a pas mal de contradictions quand on écoute le sujet de l'État et les réalités par rapport à ce que le Premier ministre avait insisté par rapport à l'opération de la société des Congolais. Parce que pour le chef de l'État, en tout cas, ils sont absolument à ce que cette sécurité sociale et les populations puissent s'améliorer dans les 2010. Et je peux dire aussi à ce que penser qu'il fallait à une amélioration vers les années 2020. Je pense que, sans conséquence, si le pas de fait, il faut arriver donc à ce point d'affaiblissement, déjà, nous sommes peut-être au point de base, il reste plus que 300 ans d'habitat de l'État. Il y a aussi cette risque pour que le système puisse s'améliorer. C'est en tout cas au vu de ce qui se passe sur le terrain. On n'a pas en tout cas comme l'impression que le gouvernement central peut arriver à tout le moins de sa politique pour réussir à améliorer et la situation sociale des Congolais. Il y a déjà pas mal de problèmes au niveau de l'enseignement avec cette grève qui vient d'être déclenchée au niveau extérieur. Il y a également aussi pour cette grève des enseignants qui a paralysé pratiquement la rentrée scolaire au deuxième semestre, et c'est la même estimée parce que les enseignants ont indiqué que tout était fini avec la prime, mais c'est sans doute que les parents se plaignent parce que les enfants sont passés. Il y a également le personnel, les infirmiers qui, en tout cas, du jour au lendemain, dénoncent que les problèmes sont pas des pères, pas des personnes, c'est pas mal comment est-ce qu'on peut réussir en tout cas à continuer et à rentrer le fond d'appel en juin 2010. Et également réussir à améliorer le processus des populations.
Merci Jean-Baptiste, on vous a compris. Nous passons à notre deuxième thème de ce soir. Réouverture depuis mardi dernier de l'Assemblée provinciale du Katanga sur décision du ministre de l'Intérieur du gouvernement central. L'annonce a été faite mardi dernier à Lubumbashi sur la télévision publique par le ministre provincial de l'Intérieur. Dikanga Kazadi a lu le message officiel du ministre de l'Intérieur du gouvernement central adressé au gouverneur des provinces sans donner de détails. Mercredi dernier, Nelly Kabena, l'un de nos correspondants à Lubumbashi, s'est rendu au bâtiment du 30 juin qui abrite le bureau de cette assemblée. Écoutons son reportage.
Ce matin, au bâtiment du 30 juin, siège de l'Assemblée provinciale, seules les femmes chargées du nettoyage des bureaux s'adonnent à leur travail. Mais rien n'est visible à l'extérieur. La pelouse ronge lamentablement le parvis. Les autres agents administratifs affirment être là seulement pour marquer la présence. Entre-temps, le questeur de l'Assemblée provinciale nous a déclaré que le calendrier des activités est déjà fixé. La première réunion des membres du bureau est prévue pour le vendredi. Et le samedi, c'est la tenue de la conférence des présidents des groupes parlementaires. Quant à la plénière, elle est attendue pour lundi. Pour sa part, l'opposition politique estime que la mesure du ministre de l'Intérieur n'avait pas sa raison d'être.
Au regard de la honte due et ce qui se passe à l'intérieur de l'Assemblée, parce qu'en fait, l'Assemblée ne nous sert à rien du tout. Nous devions normalement demander à ce qu'on la ferme difficilement. Mais sur le texte, la Constitution ne donne pas le pouvoir à un ministre de fermer l'Assemblée.
D'autre part, le centre de capture des passeports biométriques, touché aussi par cette interdiction de fonctionnement de l'Assemblée provinciale, est resté fermé. Pour rappel, l'Assemblée provinciale du Katanga a été fermée le 28 janvier dernier à la suite des incidents qui avaient suivi le dépôt de 3 motions de défiance. Parmi ces motions figurait celle adressée à l'ancien ministre provincial des infrastructures, élevé au niveau du gouvernement central. De Lubumbashi, Nelly Kabena, Radio Okapi.
Ambroise Mamba, comment avez-vous accueilli l'annonce de la réouverture de l'Assemblée provinciale du Katanga?
Je suis très content du fait qu'on a finalement réouvert cette institution parlementaire provinciale du Katanga, bien entendu. Mais ce que je ne comprends pas très bien, c'est que le chef de l'État a finalement, encore une fois de plus, accéléré la vitesse dans la mise en l'œuvre de la politique de tolérance zéro, c'est l'une des missions assignées au gouvernement Mojito II. Mais est-ce que on a pu mettre la main sur les fauteurs de troubles dans cette partie du pays, à l'Assemblée provinciale du Katanga par exemple? Parce que moi, à mon niveau, j'aurais bien voulu voir le président de la République, le chef du gouvernement, se saisir du dossier pour appliquer la politique de tolérance zéro. Parce qu'effectivement, lorsqu'il y a eu passage à tabac des 4 députés provinciaux, ces députés provinciaux ne sont pas partis s'amuser au niveau de leur chambre parlementaire. Ils sont partis travailler selon un exercice tout à fait démocratique, garanti par la Constitution, dépôt des motions de science, ainsi de suite. Mais pourquoi est-ce qu'ils devaient faire l'objet d'un passage à tabac, par exemple? Moi, je pense qu'à ce niveau, il fallait qu'on puisse ouvrir des poursuites judiciaires à l'encontre de tous les porteurs de troubles pour qu'on puisse rétablir les responsabilités. Comme ça, on mettrait en pratique la politique de tolérance zéro prônée par le chef de l'État. Au-delà des médiations qui ont été jouées par l'ancien ministre de l'Intérieur, Célestin Bouyou, à pouvoir réconcilier les deux parties en conflit, tout ça, mais on devait admettre quand même les questions au niveau de la justice pour qu'on rétablisse les responsabilités. Parce que réconcilier seulement les parties seulement et puis réouvrir l'Assemblée provinciale ne suffit pas. Les mêmes forfaits risquent d'être encore être commis dans la même champ parlementaire et ça va encore créer des problèmes. Moi, je voudrais qu'on puisse appliquer la politique de tolérance zéro et frapper ces référements conformes à la loi.
Oui, Jean-Baptiste Badera, partagez-vous ce point de vue de Ambroise Mamba qui pense que avant de prendre la décision de rouvrir l'Assemblée provinciale du Katanga, certains préalables devaient être accomplis, notamment la poursuite des personnes qui ont agressé les différents députés provinciaux.
Oui, je partage le point de vue, mais pas totalement, parce que moi je pense qu'il était nécessaire que l'Assemblée provinciale du Katanga soit de nouveau ouverte, et d'autant plus que non seulement le bâtiment du 30 juin abrite de l'Assemblée provinciale, qui comprend ce bâtiment, abrite également les chances de s'inscrire pour les passeports qui existent. Et je pense qu'au vu du fait que les gens sont seulement dans les deux ans, au Katanga, j'ai suivi sur Radio Castille cette semaine, même la semaine dernière, que les gens étaient devant excluder le travail qu'ils peuvent faire, les gens devaient partir à l'étranger. Donc, c'est une possibilité d'ouvrir ce bâtiment. Mais également, dans les 9 ans, il faut, même si on a ouvert la santé professionnelle, il faut que, dans les même temps, comme on a dit qu'on fait, qu'on puisse passer à la justice, parce que, et si ce droit reste infini, il reste très difficile pour la démocratie qui est vraiment menacée avec des telles actes, d'autant plus qu'on approche les élections de 2011, souvent on commence à faire des telles scènes, c'est très très temps quand même incroyable qu'on puisse faire des telles scènes au temps où on veut aller de nouveau aux élections en 2011, après avoir traversé toute cette route avec des difficultés jusqu'à l'époque des élections passées. Et c'est malheureux, je crois que, en tout cas, on a ouvert cette santé, mais c'est vraiment parce qu'on a dit qu'on sent ce qui sont responsables, qui sont unis complètement à la loi, toutes les raisons qui étaient en train de prendre la tolérance zéro, pour que ça commence à être là, pour que les gens fassent, pour qu'on fasse effectivement les choses qui devraient commencer à la démocratie du Congo.
Merci Albert Romba. Comment vous analysez la décision du ministre de l'Intérieur du gouvernement central?
Ouais, c'est une bonne décision, mais qui n'a pas était complètement, qui n'a pas atteint sur son point important, c'est-à-dire qui n'a pas réalisé exactement ce que si le ministre de l'Intérieur a ouvert, l'Assemblée provinciale du Katanga, il devait, comme les confrères viennent de le dire, être déjà au courant de la suite des enquêtes qui ont été menées pour trouver les coupables et les châtier. À ce moment-là, tous les députés provinciaux qui viendront à l'hémicycle se sentiront sécurisés. Les jours, ils vont venir pour la séance prochaine. Mais si il n'y a aucune enquête qui a été menée par le ministre de l'Intérieur, parce que la sécurité, c'est dans ses fonctions, s'il n'y a aucune enquête, il n'y a aucune responsabilité qui est établie pour ou contre le chef de tous ceux qui ont provoqué ces émeutes, vous voyez que c'est pratiquement des Kuluna qui continue à un certain niveau et ça fait peur à tout le monde. Donc, les ministres, même dans ses attributions de rétablir la sécurité, devaient aller au-delà, présenter d'abord devant la justice les responsables de ces troubles. Et puis, ouvrir là, ça aurait été mieux. Ça pouvait sécuriser tout le monde. Et au niveau de politiciens, ils devaient aussi savoir qu'il faut éviter des manipulations. Et si leurs partisans ont un excès de zèle, il faut qu'ils essaient de les maîtriser, parce qu'un politicien, c'est celui qui doit toujours éduquer ses partisans. Si vous n'éduquez pas les partisans, il faut toujours aller de débordement à débordement, et ça cause beaucoup d'ennuis plus tard.
Oui, Ambroise Mamba, les députés provinciaux du Katanga, initiateurs des différentes motions en fait, qui étaient à la base de ce problème, disent qu'ils vont aller jusqu'au bout de leur logique, hein, même si l'un des ministres qui était concerné par ces différentes motions a été promis au gouvernement central. Et comment vous entrevoyez en fait l'avenir?
Alors, aller jusqu'au bout de leur logique, c'est-à-dire quoi? Aller au niveau de la justice pour traduire en justice ce qu'ils avaient passé à tabac. Je voudrais d'abord me poser la première question, de savoir si ces motions ou bien cette poursuite de leur démarche ne va pas encore créer des frustrations au niveau de l'Assemblée provinciale du Katanga. Je pense que c'est une Assemblée provinciale à majorité, avec députés provinciaux de la majorité. Je me pose la question de savoir si la poursuite de ce dossier ne va pas encore créer des frustrations. Le ministre des Travaux publics, Reconstruction des infrastructures, qui est aujourd'hui au niveau du gouvernement central, il n'est plus au Katanga. C'est une motion de défiance contre le ministre ou contre le ministère. Moi, je pense que c'est une motion de défiance contre le ministre, puisque c'est le ministre qui est responsable de sa gestion. Dès lors qu'il n'est plus au Katanga, moi, je ne pense pas que la motion serait encore importante pour qu'on puisse le débattre. Puisque si on dépose la motion, on va avoir les explications de qui? De son adjoint, de son... Je me pose cette question.
Albert Rombat,
une motion qui a été initiée doit aller jusqu'au bout. Pour qu'on parle de démocratie, il faut qu'une motion aille jusqu'au bout. Qu'il soit ministre au niveau du gouvernement central, il a encore des responsabilités. S'il est établi qu'il y a tel ou tel détournement à tel niveau, au niveau de son ministère, il sera dans l'obligation de revenir au Katanga pour justifier. Parce que c'est un poste qu'il a occupé. Et s'il ne vient pas, les dossiers seront transmis à la justice. Et vous pouvez même gérer le ministère au niveau du gouvernement central. Tant que vous avez un dossier au gouvernement provincial, ça va toujours vous rattraper un jour. Alors c'est pourquoi il faut qu'il laisse d'abord le travail se faire, c'est-à-dire que la motion soit débattue. Ici, il a la chance que la majorité puisse annuler la motion. Et il est sauvé. Mais si on arrête l'évolution du dossier, c'est-à-dire l'analyse de la motion ou sa mise en vote, tout ça, ça veut dire qu'on écrase la démocratie.
Jean-Baptiste Badera, qu'est-ce que vous pouvez proposer pour que l'Assemblée provinciale du Katanga puisse fonctionner en toute sérénité?
Bon, je pense que ce sera assez peu difficile dans le tout avenir, d'autant plus que ce qui se passe déjà là-bas ne favorise pas une bonne entente, une ambiance de sérénité au sein de l'Assemblée provinciale du Katanga. Et avec l'expérience qu'on a dans France, surtout que les Assemblées de la République démocratique du Congo, ici on a en tout cas très peu de chance de voir les choses évoluer maintenant au sein de cette Assemblée provinciale. Il faut quand même dire que pour ce qui se voulait peut-être, il faut un dépassement des uns des autres, mais je viens de penser la détermination des fonctionnaires qui disent qu'ils vont aller jusqu'au bout. Et donc, moi, en tout cas, j'estime que ce sera très, très compliqué. Et en plus, au fur et à mesure qu'on avance, au fur et à mesure qu'on s'approche de l'année 2011, en tout cas, on sent que la fin de cette question de l'esprit qu'on trouve, on s'arrête pour faire ça et tout, c'est une démocratie qui est pour vous, et les Katanga n'est pas.
Merci, nous passons à notre dernier thème ce soir. Radio Okapi a célébré hier, jeudi 25 février 2010, son 8e anniversaire. Lancée le 25 février 2010, Radio Okapi a couvert tous les événements qui ont marqué l'histoire de la RDC pendant la période comprise entre 2010 jusqu'à ces jours. Parmi ces moments forts, on peut citer les négociations des Sun City, la transition 1+4, le processus électoral qui a abouti à l'installation des institutions issues de ces élections. C'est aussi ici pour nous une occasion de rendre hommage aux différents journalistes de Radio Okapi qui nous ont quittés. Quelles sont les perspectives d'avenir? On écoute l'ancien secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé des opérations de maintien de la paix, Jean-Marie Guénon, qui répondait aux questions d'Alain Hirong dans l'émission Dialogue entre Congolais d'hier jeudi.
Radio Okapi, c'est une des fondations du fonctionnement démocratique et aujourd'hui, on va fêter bientôt, dans quelques mois, les 50 ans de la création de l'indépendance du Congo. Je pense que ces 50 ans, maintenant, il faut bâtir des institutions, il faut les consolider et des institutions solides n'existent pas sans un vrai débat démocratique. Et Radio Okapi, c'est un des canaux, une des plateformes de ce débat démocratique et je peux vous dire que dans la mesure des moyens, moi je ferai toujours tout ce que je peux pour que Radio Okapi puisse continuer de vivre, y compris quand la MONUC sera partie.
Albert Romba, je rappelle que vous êtes journaliste à la radio Tropicana FM, c'est une radio qui émet depuis Kinshasa. Un mot par rapport aux 8 ans de la Radio Okapi.
Oui, 8 ans c'est beaucoup. C'est peu aussi, mais c'est beaucoup pour ce que Radio Okapi vient de réaliser à RDC. D'abord, je voudrais rendre hommage à tous nos confrères qui ont perdu leur vie dans l'exercice de leur métier. Je parle de tous les confrères qui étaient à Bukavu 2, qui ont perdu Nambujimbo et...
Dina Nambujimbo et Serge Maïché.
Et hommage aussi à Jérôme Ngongo qui était décédé ici. C'était des grands acteurs aussi, et d'autres confrères.
Il y a également Aline Moukeba qui est décédé.
Voilà.
Il y a aussi le vieux Léon Jacques Mwamba qui vient de décéder.
Voilà.
Il y a Jean-Claude Bisliabou qui est aussi décédé. Et il y a Joachim Kalumendo, Roger Poggia.
Voilà, quelle est la mais en paix. Ils ont laissé quand même des traces et des souvenirs. Je crois que les auditeurs de Radio Okapi ne vont pas les oublier du tout. Alors, je voudrais revenir. 8 ans, je dis c'est beaucoup, c'est peu. Parce que la tâche qu'avait la Radio Okapi à travers le pays, moi, je fais le tour de la République. Et chaque fois que j'arrive quelque part, et je dis je suis journaliste, on me pose la question. Tu es journaliste de la Radio Okapi? Je dis non. Vous voyez, ça veut dire que comment la Radio Okapi est écoutée à travers toute la République. Et ce qui est beaucoup important, c'est une radio qui a permis l'émancipation du Congolais au niveau de l'expression de son opinion. Parce que quand la Radio Okapi est arrivée, nous on croyait que ça serait une radio onusienne qui va faire l'écho des activités de la MONUC. Mais contrairement à ça, c'était une radio indépendante et républicaine qui a pu mettre en œuvre et concilier tout le monde. Et surtout avec le débat. Le débat qui a permis d'abord au gouvernement 1+4 d'évoluer et de mettre de côté tous ces gars comme mal attendus. C'est à travers cette radio que les protagonistes se retrouvaient pour dissiper un peu les malentendus qui existaient entre eux. Et la radio a évolué. C'est une très bonne chose. Je ne sais même pas. Les mots me manquent pour qualifier un peu.
Merci beaucoup, Romba. Ambroise Mamba, je rappelle que vous êtes journaliste à la télévision Congo Web. C'est une télévision qui émet depuis Kinshasa. Quelle lecture, quel journaliste que vous êtes préféré de ces 8 ans de Radio Okapi?
Je voulais d'abord commencer par vous souhaiter un joyeux anniversaire.
Merci beaucoup.
Surtout à le personnel de Radio Okapi également.
Merci.
Radio Okapi, c'est quand même une radio importante du fait qu'elle couvre, elle a un caractère national. Elle couvre l'ensemble du pays. Cette radio qui a eu un très très bon départ avec des émissions, des très belles émissions, avec son bon journal et ainsi de suite. Au début, Radio Okapi, lorsqu'on suivait cette émission à l'intérieur du pays notamment, on ne pouvait pas s'imaginer de la coloration de Radio Okapi. Mais aujourd'hui, on peut comprendre que Radio Okapi a une certaine coloration, un certain penchant. Jean-Marie Guénon, que nous venons dessus tout à l'heure, il a parlé d'un débat démocratique qui servait à Radio Okapi. Mais je vous souhaite qu'il puisse peut-être ajouter un petit mot, sauf pour des questions qui touchent à la MONUC.
Attends, merci.
D'accord. Ça n'arrête que moi. Et c'est un point de vue. Je vais le démontrer par ceci. Par exemple, en rapport avec... Vous savez, dans les traitements d'informations, Radio Capine a passé allusion, notamment au dossier qui touche le gouvernement congolais et la Moluque, en rapport avec le retrait de toute la Moluque.
Si,
on n'a pas pu bien
traiter en fond de ce
peut-être avec subjectivité. Peut-être avec subjectivité, mais pas avec objectivité. Mais je pense que c'est une bonne radio qui a un bon personnel. Pour des questions qui ne touchent pas à la Moluque, vraiment, on les traite avec objectivité et avec profondeur. Un coup de chapeau.
Merci. Jean-Baptiste Badera, je rappelle que vous êtes secrétaire de rédaction à la radio Maendeleo. C'est une radio communautaire émettant depuis Bukavu au fil qui vous. Et vous êtes aussi correspondant de Digital Congo dans cette province. Et comment percevez-vous le rôle de la radio Capi dans la consolidation de la paix en République démocratique du Congo?
Oui, merci beaucoup. Je dois d'abord commencer par souhaiter joyeux anniversaire à tous les personnels et des radios Capis, et en particulier à tous les confrères. Il faut dire que, en tout cas, Radio Capis a fait beaucoup, hein, surtout pour nous les gens qui ont vécu à l'est de la République démocratique du Congo, ou bien dans l'est de la République démocratique du Congo, à l'époque où les pays étaient divisés en deux, compte tenu de la guerre qui et avec donc cette foule à la République démocratique du Congo, et grâce à Radio Capi, on a donc eu l'occasion d'être unis de l'Est à l'Ouest, et grâce aux informations, grâce à la participation des différents auditeurs qui appelaient de tous les points la République démocratique du Congo. Donc, au moins, au Capi, en tout cas, a aidé à servir de charnière entre l'Est et l'Ouest pendant l'époque de la guerre. Il faut aussi noter que Radio Capi a beaucoup fait passer à partir de ces différentes éditions. Beaucoup ont eu l'occasion de comprendre comment les choses évoluent, tous les plans de démocratie, tous les processus. Mais en rapport avec la paix, en tout cas, il faut saluer le travail à partir de Radio Capi. En tout cas, pour beaucoup, Radio Capi a servi de sol et de modèle. Je ne peux que remercier et encourager tous les personnes de Radio Capi et tous les fonds de Radio Capi.
Oui, Alba Romba, vous avez un mot à ajouter?
Oui, je crois que. En dehors de la diversité, parce que ici nous prenons surtout l'aspect politique, la radio Capi n'a pas vraiment abordé seulement le sujet au niveau politique. Nous avons des émissions comme Action, des émissions sportives, au Capi. Ce sont des émissions, voilà, qui vous donnent la réalité, tous les aspects du problème au niveau national. Moi, je peux être ici, on me parle d'une grève à Katakoukoum. Il y a des agents qui ont refusé recensement, tout ça. Et on a la voix de recenseurs et de la population. Donc, c'est quand même une radio qui nous a beaucoup aidé. Surtout que on avait des radios d'obédience ici. Chaque groupe armé ou chaque parti politique avait sa radio ou sa chaîne de télé qui avait une limite dans l'expression. Mais avec Radio Capi, on avait une certaine ouverture de dire au moins, plus ou moins, dans une façon beaucoup plus délibérée et beaucoup plus indépendante, ce qu'on pense. Et c'est surtout ça qui est important.
Amoureusement, bas.
Oui, moi je pense que c'est en rapport avec ce qu'il a dit tout à l'heure, il y a quand même beaucoup d'innovations à Radio Capi qu'il faut quand même saluer. Et notamment, en ce qui concerne beaucoup d'émissions thématiques qu'il y a sur place ici à Radio Capi, ça permet à la population d'être au parfum de tout ce qui se passe à travers le pays, non seulement ici à Kinshasa, mais à travers l'ensemble du pays. Et je pense que pour ça, on doit quand même jeter des fleurs à Radio Capi, de continuer sur cette lignée, mais aussi de parler avec beaucoup d'objectivité de la Moluque.
C'est ce qui est Radio Capi. Merci, c'est la fin de cette émission. Eric Sizakala était à la technique, Samuel Kachak à la réalisation, sous la supervision de Martin Sabou-Jangoué, et devant ses micros, Guy Maté. Merci et bon week-end sur Radio Capi. Thank you.